Merci d'écouter Beurre FM, il est 10h.
Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, quel plaisir de vous rappeler que ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Une heure ensemble pour déconstruire les préjugés avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous, bienvenue.
Voilà, ravi de vous retrouver, fondateur de l'association OSES, un institut de formation qui s'adresse aux imams notamment.
Effectivement, donc on est spécialisé dans l'apprentissage du français et du patrimoine culturel pour les imams. On a monté aussi une nouvelle formation qui concerne les présidents de mosquées, les présidents d'associations de mosquées. Donc on les accompagne aussi sur leur gouvernance, comment gérer sa mosquée, la comptabilité et l'administration et le juridique aussi.
Tiens, en parlant de mosquée, l'imam Abdelali Mamoun est avec nous. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Plaisir est partagé, imam Abdelali. Vous avez enlevé votre pull moche.
On a des invités prestigieux ce matin.
Alors à votre gauche, c'est Claude Rolls qui est avec nous. Claude Rolls.
Bonjour, ravi aussi de me retrouver parmi vous.
Voilà, vous êtes professeur de philosophie, vous avez dirigé le diplôme universitaire Interculturalité, Laïcité et Religion qui avait été créé à l'Institut catholique de Paris. C'était le premier institut à proposer une formation à l'histoire et à la pratique de la laïcité française. Notre invité ce soir, c'est Monsieur Meir Mbar Hacher. Bienvenue.
Merci à vous. Meir Mikael Baracher.
Alors oui, parce que vous voyez, je me demandais à quoi correspondait le M.
L'M de Mikael.
Voilà, c'est Mikael. Vous êtes grand connaisseur de l'islam et du judaïsme, historien et philologue. Vous êtes directeur du département des langues et littératures arabes à l'université hébraïque de Jérusalem. On dit de vous que vous êtes un adepte de la simplexité et on en aura besoin ce soir puisque nous sommes là pour parler de votre livre qui s'appelle « Les Juifs dans le Coran » aux éditions Albin Michel. Et à chaque émission, tiens, pour parler de simplexité, on explique des mots qu'on a appris en préparant l'émission. Yacine. Alors, peut-être que ma question vous surprend, Yacine, pourtant c'est une question que je pose à chaque émission.
Oui. Et à chaque fois, il a l'air surpris.
Sinon, moi, j'en ai des mots que je n'ai pas compris. Hein.
Non, en fait, le mot qu'on a appris aujourd'hui, en fait, c'est moi encore une fois, parce que je pensais qu'on allait faire la citation.
Elle viendra tout à l'heure. Mais on peut changer l'ordre des choses, Yacine.
C'est le mot halaqa, ou halaqa, comme on dit en hébreu. Peut-être que quelqu'un connaît ce mot.
Je pense que par rapport au livre que j'ai pu feuilleter, il signifie l'équivalent des lois canoniques juives, c'est ça ? Donc, l'équivalent de la charia chez les juifs,
c'est ça ?
Et ça se prononce comment en hébreu ?
Halakha.
Halakha.
Halakha. C'est tout à fait l'équivalence halakha. De fiqh pour charia, et c'est-à-dire la domaine qui discute les lois, les furu' et les usul, c'est-à-dire les principes et les branches.
Il existe aussi un usul al-fiqh, c'est-à-dire une principologie du droit juif.
Évidemment, les deux aspects existent. Il y a les principes majeurs et puis il y a les branches.
Et chez nous, on a des sources qu'on appelle al-masadir al-tashri'iyya, les sources juridiques, que sont le Coran, la tradition prophétique, le consensus, le raisonnement analogique, qu'on appelle qiyas, l'ijma', etc. Ça s'appelle comment ? Ça existe chez vous ?
C'est pareil. Oui, tout à fait. Il y a d'abord la Torah qui est l'équivalent de la loi écrite, l'équivalent du Coran. Et puis après cela, il y a ce qu'on appelle la Torah Shebealpe, c'est-à-dire la tradition orale, c'est-à-dire le Talmud, les Midrash, etc. Et puis sur ces deux piliers, il y a toute une littérature halakhique, fiqh.
Et le Pentateuque, il rentre dans quoi ? C'est la Torah.
Pentateuque, ça fait partie de la Torah. Mmh. Ça fait partie, c'est la première partie du Torah. Torah, c'est ce qu'on appelle en arabe Torah. Ça englobe tous les écrits sacrés juifs, c'est-à-dire le Pentateuque, les livres des prophètes, les livres des écritures tardives. Tout ça, c'est la Bible. Et puis, la deuxième couche sera la littérature orale.
Parce que chez vous, l'équivalent du Coran,
c'est la Torah.
C'est Torah, d'accord. Oui. Et ce qui est avant la Torah, ou pendant ou après la Torah, c'est-à-dire Tarikh al-Anbiya, l'histoire des prophètes et du prophète Moïse, ça rentre dans quoi ? C'est l'équivalent chez nous de la Sira Nabawiya ?
Non, et l'équivalent de la Sira Nabawiya, c'est autre chose chez nous. Et c'est-à-dire les Arabes, lorsqu'ils disent « Torah », c'est pas exactement parallèle à « Torah » en hébreu. Mmh. Quand on parle de « Torah » en hébreu, c'est toujours le Pentateuque, les cinq premiers livres de Torah. Tandis que quand un musulman dit « Torah », il veut dire par cela tous les écrits sacrés juifs. Et je ne parle pas de Talmud, qui est post et biblique, c'est-à-dire le livre de Anbiya, et fait partie de ce qu'on appelle Torah en général, parce que lorsque le Coran dit, ou dans les écrits.
Parce que nous, ce qu'on appelle Torah, dans le معنى la aqida islamia, هو كلام الله, c'est la parole de Dieu révélée à Moïse. Al-munazzala ala Moussa, comme nazzala al-Qur'an ala Muhammad, wa nazzala al-Injil ala Isa, de la même manière que Dieu a révélé un texte divin à Muhammad, il a fait l'équivalent à Jésus, l'équivalent à Moïse. Alors, qu'est-ce qui est équivalent dans la Torah de ce qu'est le Coran, qu'on appelle nous parole divine, et qui serait parole divine révélée à Moïse?
À vrai dire, c'est pas seulement la Torah, c'est comme je dis, c'est le pilier principal de ce qu'on appelle la Torah en arabe, mais aussi les livres des prophètes sont considérés une partie de cela. Oui.
D'accord. J'ai mal aux oreilles, moi, quand j'entends chez nous et chez vous, j'ai l'impression que tout le monde habite sur une autre planète, alors qu'on est tous sur la même planète. C'est chez nous, nous.
C'est n'empêche. Non, mais on
est une émission qui rassemble les gens, mais chez nous et chez vous, j'ai toujours l'impression qu'on habite à 500 km les uns des autres.
Non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
Mais non, mais c'est chez nous, chez vous.
Ce sont des religions.
On est sur le même plateau.
Monsieur Maire est un spécialiste de l'islam, mais il est d'abord un juif et spécialiste de la religion juive. Donc c'est normal qu'il nous explique la différence qu'il y a entre l'islam.
C'est juste que ces mots, ça me fait, j'ai l'impression qu'on était tous très 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 éloignés.
Non, au contraire, c'est ce qui nous rapproche, le dialogue.
S'entreconnaître
pour mieux s'apprécier, pour mieux se.
C'est pour ça que des fois, ensemble. J'aimerais bien que ça soit chez nous tous.
Non, parce que je vais te dire pourquoi beaucoup d'Arabes détestent les juifs. Moi, je vais vous dire franchement, beaucoup. Non, c'est faut dire les choses. Beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux dire, ils ne connaissent rien d'eux.
On ne peut pas généraliser.
Et on a un proverbe arabe qui dit Al-insanu aduwwu ma yajhal. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et je te promets que s'ils apprenaient un peu mieux ce que c'est que le judaïsme, il y aurait beaucoup moins d'antisémitisme chez les musulmans.
Bon, alors les juifs dans le Coran, c'est un sujet encore qui reste à être exploré. L'imam Abdelali tout à l'heure parlait de sources. Vous, pour écrire votre livre, vous êtes allé à quelle source?
Alors, d'abord, j'ai examiné les sources musulmanes, c'est-à-dire le Coran. Je le lis depuis plusieurs années, très attentivement, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup d'intérêt. Les commentateurs du Coran, c'est-à-dire les grands commentateurs classiques et médiévales et aussi tardives, comme Tabari, comme Zamakhshari, comme Ibn Kathir, tous les commentateurs et aussi les commentateurs tardifs du 19e, 20e siècle, aussi bien dans le Sunna que le Shia, tout ça m'intéresse. Et je m'intéresse aussi dans les autres sources, par exemple la Sira qui vient d'être mentionnée, c'est-à-dire la biographie du prophète.
Sira Nabawi, donc.
Sira Nabawi, la Sira prophétique de Ibn Hisham, qui raconte la version de Ibn Ishaq. Je la lis très très attentivement, et bien sûr le hadith, le fiqh, tout ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect de comparaison. C'est-à-dire, en même temps, je passe ma vie non seulement à la lecture attentive et respectueuse des sources musulmanes, mais aussi à lire et commenter et comparer ce qu'il y a dans les sources juives, c'est-à-dire la Torah, toute la Bible, les écrits post-bibliques, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash, et d'essayer de voir non seulement les points de divergence qui existent, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les anéantir, mais en même temps, le point commun entre les religions, il y a aussi bien des points communs que des points de divergence. Et ça m'intéresse, et je pense que... On peut pas, ça, je suis avec Monsieur l'imam, on peut pas respecter une tradition si on ne la connaît pas. Il faut connaître une tradition pour pouvoir la respecter. Donc j'ai beaucoup de respect aux sources musulmanes que je lis avec beaucoup d'estime et beaucoup d'intérêt, et j'appelle aussi bien les musulmans à comprendre le judaïsme et s'ouvrir vers le judaïsme que en même temps j'appelle les juifs et les chrétiens à écouter attentivement et sérieusement aux sources musulmanes.
Donc ce travail de connaissance, il doit être fait de toutes parts, en fait, finalement.
Tout à fait.
Vous rajoutez à l'islam, donc, une compréhension chiite et sunnite aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire, dans ma recherche, je travaillais beaucoup sur le chiisme, et ça, c'est le point commun que j'ai avec mon ami et collègue Mohamed Ali.
Qui a préfacé votre livre.
Qui est un très grand connaisseur de chiisme, qui est duodécimain spécialement, mais de chiisme en général. Et alors, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'exégèse chiite du Coran.
Alors, pour expliquer, le duodécimain, c'est une des branches du chiisme. En arabe, on appelle ça l'ithna ashariya. C'est ceux qui se réfèrent aux 12 imams. Parce qu'il y a les ismaéliens qui ne se réfèrent qu'à 7 imams, les zaïdites qui ne se réfèrent qu'à 5 imams.
Quand vous dites les 12 imams...
Ce sont les descendants du prophète.
Voilà.
Exactement. C'est-à-dire le petit-fils du prophète, et ainsi de suite. Petit, arrière, 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 ainsi de suite. 12 générations... dont leur mère est Fatima, qui est la fille du prophète Mohammed. Donc c'est duodécimain, c'est 12 imams, hein, jusqu'à Hassan al-Askari, qui est le dernier, en passant par Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Kadhim, etc. Voilà, c'était juste une précision, parce que les auditeurs ne savent pas tous ces vocabulaires, c'est important de leur expliquer. Et ça, c'est spécifique au chiisme.
Donc j'essaye aussi bien dans le livre, le focus et l'accent est mis sur l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire. Mais quand même, il ne faut pas... Je ne pensais pas que...
Il y a un chapitre qui est consacré
au chiisme pour montrer la ressemblance et les divergences également.
Alors, quels sont les divers noms par lesquels les juifs sont désignés dans le Coran?
Bon, il y a de toutes sortes. Il y a... des divers noms.
Oui.
Divers noms. Oui. Alors,
il y en a trois principaux, finalement.
Oui, on trouvera trois principaux. Et chacun, dans l'utilisation de chacun, on veut... mettre l'accent à un autre aspect. D'abord, il y a le terme Banu Israël, les enfants d'Israël, les fils d'Israël. Et lorsque le Coran utilise ce terme, il parle toujours des anciens hébreux de l'époque biblique. Quand le Coran parle de cette idée de l'élection de fils d'Israël, ils disent. Ya bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ô fils d'Israël, rappelez-vous de la grâce par laquelle que je vous ai comblé et par laquelle je vous fais
je vous ai élu parmi les mondes,
parmi les autres peuples.
Les autres peuples.
Alors là, il s'adresse, le Coran, Dieu s'adresse, c'est la parole de Dieu d'après la conception islamique, il s'adresse aux fils d'Israël anciens. Lorsqu'on parle des juifs tardifs, c'est-à-dire les juifs de l'époque de Mahomet et de l'islam, de l'époque de la création, de la fondation de l'islam, on parle régulièrement de Yahoud. Et le terme Yahoud devient, dans plusieurs cas, un terme péjoratif par rapport au terme Banu Israël.
C'est donc les juifs.
C'est
la traduction.
De juifs.
C'est juif.
Ouais, ouais. Ça veut dire juif.
Le premier, c'est israélite, et le deuxième, c'est juif. Et puis, il y a aussi le terme Ahl al-Kitab, ou quelquefois, qui est présenté de manière verbale, Lazina utul kitab, ceux qui ont été, à qui le livre sacré a été.
Ou bien aussi Lazina hadou.
Lazina hadou.
Lazina hadou. Le peuple du livre.
C'est pas tout à fait. On reviendra là-dessus.
La Zinahadou, c'est-à-dire c'est tout à fait parallèle à Yahoud.
D'accord. Et quel est celui qui est le plus utilisé alors?
Bon, quand on parle maintenant des Juifs, on parle de Yahoud. Yahoud, c'est dans le média, dans la culture. Quand on parle de Ban Israël, on veut par cela indiquer les anciens, l'histoire et les Juifs de l'époque biblique.
Les Juifs dans le Coran, on en parle jusqu'à 11h dans Speak Uni.
Speak Uni revient dans un instant. Peur FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
On parle des Juifs dans le Coran aujourd'hui. C'est le titre du livre qui vient de sortir de Mère Michael Baracher aux éditions Albin Michel. Sont présents sur ce plateau Claude Roels, qui est professeur de philosophie, qui est avec nous, l'imam Abdelali Mamoun et Yassine Ilmi. Yassine.
Oui, moi j'avais une question, c'était concernant les mots hébreux qui sont cités dans le Coran. Quels sont-ils selon vous?
Bon, il y a plusieurs mots, et c'est-à-dire les mots qui. D'abord, il faut dire que le Coran contient beaucoup de mots d'origine non arabe. Bien que l'arabe est la langue sacrée du Coran, et on sait déjà les grands commentateurs du Coran n'ont pas eu aucun problème à admettre qu'il y a des mots non arabes dans le Coran. Par exemple, si on ouvre le grand tafsir de Tabari, on trouve que très souvent ils disent « Wahadhi kalima syrianiya ». Tel mot est syrien, tel mot est...
D'origine persane.
D'origine persane.
Tilka idhan qismatun dhiza, le mot dhiza, ça veut dire « dolm », qui n'est pas juste. Donc, c'est un mot perse, d'origine perse, par
donc
exemple.
Donc le vocabulaire hébraïque est très tendu, par exemple, « yawm ad-din », c'est-à-dire le jour de jugement. Et on a par exemple le mot sakina, wa anzalallahu sakinatahu alayhi sakina. Donc on peut.
La sérénité.
Chez les commentateurs musulmans, on trouve deux explications à ce mot. Soit sakina comme l'hébreu, c'est-à-dire la présence divine, soit sakina qui vient du sens de racine arabe, sakana man kana lahu sukun en nafs.
C'est-à-dire calme, apaisé, la sérénité.
Donc ce mot-là. Et le mot salat et zakat, par exemple, ces deux mots de deux piliers de l'islam, ne sont pas de l'hébreu, mais ce sont des mots de noms araméens.
Mais les deux langues hébreu et arabe sont d'origine araméenne. Ils ont des sources araméennes.
Les trois langues ouais. Araméen, hébreu et arabe, sont d'origine sémitique, c'est-à-dire les langues sémitiques. Donc le mot salat et zakat, deux des piliers de l'islam, vient dérive des mots araméens qui veut dire slota, salat et zakhuta et zakat. Et beaucoup d'autres, shaitan par exemple, shaitan, satan. Et je n'ai pas amené ici toute la liste, mais il y a pas mal de mots.
Et puis il y a tous les noms des prophètes, Israël, Yaakoub, Ishaq, etc. Moussa, Daoud, Suleyman, etc. Tous les noms des prophètes de Bani Israël. Il faut savoir que la plupart des prophètes de l'islam, qui sont reconnus par l'islam et des autres religions, sont de Bani Israël, ils sont issus du peuple d'Israël. C'est pour cela que Dieu a cité ce verset qu'il a évoqué tout à l'heure, le professeur. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ce bienfait que je vous ai comblé, c'est d'abord la hidayah par les prophètes, d'où le terme hadou, ça veut dire qu'ils ont été guidés, puisque le mot innal ladina hadou, ça veut dire ceux qui ont la hidayah, qui ont la guidance, mais ça vient aussi de mot hadiyah, ça veut dire offrande, cadeau que Dieu offre à ce peuple-là, il leur donne les prophètes, la révélation, toute cette préférence en voyant des prophètes.
Est-ce que le mot hitatun, c'est un mot hébreu aussi, non?
Ça, c'est discuté. Il y a beaucoup de recherches qui ont été écrites là-dedans, sur ce mot, et ce n'est pas clair si ça a un rapport avec le mot hita, dans le sens de hita, c'est-à-dire en arabe, al-qamh, al-sha'ir, ou bien c'est lié au mot « het », dans le sens de « khati'a », c'est pas clair, c'est un mot discutable.
Dieu lui-même a dénoncé le fait que des gens ont justement transformé le mot « hetta » en « henta ».« Fabaddala alladhina kafaru ». Ils ont changé le sens de ce mot « hetta » en « henta » pour se moquer. « Waqulu henta »« Waqulu hetta tunaghfir lakum khatayakum » Hetta bimana mea culpa, ça veut dire mea culpa, ça veut dire hetta, ça veut dire je demande à Dieu ani hotta ani khati'ati, yani je demande le repentir. C'est une forme, c'est une expression qui veut dire se demander pardon, mea culpa. C'est l'équivalent de demander pardon à Dieu. Non, mais transformer en henta qui veut dire blé, ça n'a rien à voir. C'est se moquer.
On peut ajouter que lorsqu'on a beaucoup d'explications, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'explication. Le mot hita, vraiment, on donne tellement des explications.
C'est pas mal, ça.
C'est pas clair.
Donc, c'est qu'on noie le poisson, en fait.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord, Claude?
Tout à fait d'accord. Et ça dépasse largement le cadre biblique ou coranique.
C'est... Quand on donne trop d'explications, c'est qu'on n'en a pas.
Oui, on n'en a pas, oui.
Moi, je suis d'accord avec ça.
On commence à deviner, à donner toutes sortes d'explications. Oui. Quand les choses sont claires, ils ont une explication.
Mais est-ce que les choses peuvent être claires devant votre micro? Parce que je vous fais des signes depuis tout à l'heure, mais il faut vraiment parler devant votre micro, comme ça on vous entendra bien. Okay. Vous parlez de l'ambiguïté du Coran face à l'héritage biblique, ou d'une ambivalence. Vous dites que, effectivement, le Coran ne contient presque aucune citation littérale de la Bible. Pourquoi?
Alors, c'est intéressant. J'essaie d'expliquer cette chose-là. Ce qu'on voit d'un côté, on voit une présence très, très remarquable des idées coraniques qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la Torah. Énormément l'histoire des prophètes, les affaires halakhiques, les noms comme le monsieur l'imam a mentionné, les noms des figures et des héros bibliques. Et tout ça démontre à une ressemblance immense, d'un côté. De l'autre côté...
Mais surtout une reconnaissance.
Oui, une reconnaissance. Mais de l'autre côté, c'est toujours des paraphrases des idées coraniques. Mais
sans les citations littérales.
Sans les citations littérales. Et ça remonte à une idée qui est un peu... qui est délicate, mais il faut pas cacher les points délicats. D'un côté, le Coran considère la Torah d'Israël comme un livre sacré, écriture qui vient du ciel, et comme les autres écrits, comme les Injil, le Coran, le Torah, le Zabur, Kutub Muqaddasa, Kutub Samawiya, des écrits divins. Donc on peut faire référence à ces livres. Et le Coran le fait. Le Coran dit, par exemple, il s'adresse à Muhammad, Dieu, et dit « In kunta fi shakkin mimma uhayna ilayka fas'al ladhina yaqrauna al-kitab » Si vous êtes dans le doute concernant ce que nous vous révélons, alors demandez, interrogez les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Donc c'est une source à laquelle on peut comprendre, on peut comparer le Coran. Mais d'autre côté, on trouve dans le Coran que le Coran accuse au moins certains des juifs, si pas tous les juifs, de falsifier le texte. Donc on ne peut pas vraiment compter sur le texte. Parmi les juifs, il y a ceux qui changent, qui falsifient, qui modifient. Il y a un tas de termes qui décrit cette stratégie, soit tahrif, changement, soit tabdil, laïlissan, toutes sortes de terminologies qui veut dire que les juifs...
Il y a suspicion de falsification.
Exactement.
Tout ça, c'est parce qu'à la base, les communautés juives de Médine qui ont accueilli donc, le prophète et les Arabes qui étaient là-bas, ont refusé et réfuté la reconnaissance. Donc il fallait forcément qu'ils mettent tous les moyens intellectuels et théologiques pour prouver que Mohammed n'était pas un vrai prophète. Donc c'était là, il y avait un antagonisme qui était né, et que le Coran témoigne et illustre et relate de manière très forte l'antagonisme qu'il y a entre Mohammed soutenu par Dieu, donc par la révélation, et par les enfants d'Israël qui vivaient près de lui, et qui ont fini tous, pour beaucoup d'entre eux, tués. Ils ont été tout simplement exécutés par le prophète, et beaucoup d'entre eux ont été chassés de la ville.
De la période médinoise.
Ouais,
hein.
Oui, tout à fait, puisque à la Mecque, il n'y avait rien.
Je suis d'accord avec l'interprétation de
Banu Nadir, Banu Qaynuqa', Banu Qurayza, et puis Khaybar, et puis bien après, il y a eu toujours un antagonisme, des tensions entre. Il y a même eu des meurtres ou des assassinats de poètes juifs qui ont été orchestrés, selon des historiens, bien sûr, ça a vérifié l'authenticité. Qui ont été orchestrés sur les ordres du prophète parce qu'il disait que ces personnes-là avaient transgressé la charte de Médine. Et donc, ils n'étaient plus en droit de. Sous le pacte de paix qui était établi. Donc voilà, c'est un des choses qui montre bien qu'il y a dans le Coran énormément de tensions et d'antagonisme entre les musulmans dirigés à leur tête par Mohammed Ali Soslam et les juifs. Qui, je rappelle, le prophète était marié avec leur chef, Huyay ibn al-Akhtab al-Yahoudi, qui était le chef de Banu Nadir, mais qui après était un petit peu le médiateur entre toutes les tribus juives. Il était marié avec sa fille, Safiya bint Huyay, et l'épouse du prophète. On l'appelle la mère des croyants. Et même les autres Ummahat, les autres épouses du prophète, se moquaient d'elle en disant « Anti Yahoudiya, toi la juive ». Le prophète, il lui a dit quoi? Il a dit « T'es marié avec un prophète, ton grand-père est un prophète et ton oncle est un prophète ». Moussa, elle est descendante de Haroun, et son grand-père, son ancêtre du côté de son père, non, est descendant de Haroun.
Alors, il y a deux idées qui sont révélées comme polémiques. La première, c'est la vision des enfants d'Israël comme peuple élu, et la deuxième, c'est la question de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Bon, oui. C'est les deux gros morceaux que vous évoquez dans votre livre. Alors, comment on fait avec ça ? Pour faire de la simplexité, comme on dit, c'est-à-dire rendre simple des choses qui, a priori, sont compliquées.
Simplexité.
La simplexité, c'est ça. Et alors, de monsieur maire Michael Barracher, on dit que vous êtes le roi de la simplification.
La simplification, non ?
Voilà, la simplification. Voilà.
Je sais.
Alors, donc, comment on fait avec ça ?
Donc, prenons par exemple l'idée de briser l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait une alliance avec le peuple juif, Mitsar. Okay? Et puis, ils ont décrit les peuples d'Israël en dessus Dieu, d'après le Coran, par le fait de ne pas respecter ce Mitsar. Par exemple, le fait qu'ils, d'après le Coran et la Bible, ils ont adoré le veau d'or, montre qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne sont pas des vrais unitaires, des vrais
monothéistes.
Donc, et de là...
Alors que ce n'est pas tout le monde, on parle de
cette chose. Cette chose devient et a une conséquence énorme, puisque les Juifs sont considérés comme ceux qui ne respectent pas l'alliance avec Dieu. Naqadul Mithaq, c'est la façon que c'est décrit dans le Coran.
C'est de l'arabe, hein, ce n'est pas de l'hébreu qui dit là.
Oui, en arabe. Donc, s'ils sont comme ça, c'est bien évidemment et bien attendu qu'ils ne vont pas respecter le Mithaq ou le contrat ou l'alliance avec des êtres humains. Et c'est la conséquence, et donc un verset coranique qui est très populaire, on le cite souvent dans le contexte polémique, la tattakhidhu al-yahoud wa an-nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des alliés. Comme alliés. Pourquoi ? Parce que, regardez, le Coran nous dit qu'ils ne sont pas capables de respecter l'alliance avec Dieu. Comment voulez-vous qu'elles respectent les lois avec entre eux ?
Et ça, c'est dans la plus grande sourate du Coran, hein ?
Sourate al-Baqarah.
La sourate numéro 2.
Sourate al-Baqarah, ça se trouve aussi dans la sourate al-Ma'ida.
La table mise.
Oui. La table, oui. Table servie.
Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'était quel
Alors, vous avez l'alliance avec Dieu et le peuple élu.
Le peuple élu. Donc, le peuple élu, c'est lié à ça. Le peuple, quand on a déjà évoqué cette question, les Banu Israël, les fils d'Israël, sont considérés comme le peuple élu, mais cette élection n'est pas automatique, d'après le Coran. Une fois qu'ils ne respectent pas l'alliance, alors Dieu, il peut remplacer cette alliance par... Et il peut remplacer le peuple d'Israël par un autre peuple, et comme ça nous arrivons au verset 110 de la sourate Al-Imran, sourate 3, qui dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar » Vous êtes, vous les Arabes, vous êtes le meilleur peuple qui remplace le peuple.
Ah, il ne précise pas qu'il remplace, mais en tout cas, il dit qu'à condition que vous croyez en Dieu, que vous ordonnez le bien et que vous interdissez le blâmable.
Exactement, et que vous, c'est très important ce que dit
l'imam. Mais il ne dit pas qu'il le remplace.
Non, c'est-à-dire qu'il devient maintenant, c'est eux qui maintenant le peuple élu.
Mais c'est pas, il ne parle pas aux Arabes, il parle aux musulmans.
Je parle aux
gens qui se sont soumis à Dieu.
Je parle aux musulmans.
Qui se sont soumis à Dieu. Oui, mais il faut citer aussi le verset 62 de cette sourate al-Baqarah, où quand Dieu parle aux croyants, il dit que ces croyants-là, ainsi que l'adine had, ou ceux qui sont juifs, qui sont de religion juive, qui se sont judaïsés, ou an-nasara, les nazaréens, donc les chrétiens, on parle ici, ou as-sabi'in, les sabéens, man amana billahi wal yawmil akhir, wa amila salihan, qui ont cru au jour du jugement en Dieu et au jugement du jour dernier, qui ont fait des bonnes actions, falahum ajruhum inda rabbihim, wa la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Ce verset-là, on a tendance...
Traduisez.
Oui, ça veut dire...
Parce que là, vous me regardez, mais là, je ne vous fais pas la traduction.
Ils auront la récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte. Ils ne seront en aucun cas affligés. Là, il parle des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des sabéens, qui ont cru en Dieu, qui ont fait des bonnes actions. À partir de là, Dieu dit que ces gens-là, à partir du moment où ils font des bonnes actions, ils auront leur récompense. Ils auront leur récompense et ils ne seront jamais affligés. Donc, est-ce qu'on peut aller jeter en enfer et blâmer alors que Dieu leur donne la récompense à des gens qui ont fait des bonnes actions ? Donc, moi, je pense que c'est d'abord le comportement. La foi, ils l'ont. Les Juifs sont croyants, ils sont monothéistes. Maintenant, si parmi eux, des gens sont des croyants, ils font des bonnes actions, il n'y a pas de raison qu'eux aussi puissent être concernés par la miséricorde divine.
Bon, ça passe très très vite. Hein. On parle de ce livre qui vient de sortir, un livre important, Les Juifs dans le Coran aux éditions Albin Michel. Tout à l'heure, le grand quiz des religions et on aura la citation que du coup, Yacine, vous voyez, je l'ai complètement zappée, donc elle revient dans un instant.
Speak Uni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
Les Juifs dans le Coran, c'est le livre de Mère Michael Bar-Hacher qui est avec nous, notre invité. Avec nous également sur ce plateau, Claude Roels, qui est professeur de philosophie, qui nous écoute et qui va pouvoir vous poser des questions. Yacine Ilmi qui est là et l'imam Abdelali Mamoun. La citation du jour, Yacine.
Ben, la citation du jour, elle est d'un théoricien révolutionnaire du 19e siècle et qui est issu du milieu ouvrier. Et en fait, il parle du Coran lui aussi. Donc, il s'appelle Pierre-Joseph Proudhon, qui est né en 1809. Donc,
avec un peu de chance, on lui doit les prix
de l'homme. Il parle du Coran et dit « Le Coran n'enseigne nulle part l'intolérance. Il reconnaît la mission de Moïse, celle de Jésus. Il dit que Dieu a donné à chaque peuple la loi qui lui convient, mais qu'il a envoyé Mohammed aux Arabes. Quoi de plus conciliant ?» Point d'interrogation. Voilà. Il a fait un résumé du Coran.
Claude Roels, ce monsieur Proudhon-là, c'est celui qui c'est l'originaire des Prud'hommes.
Non, mais c'est, non. Le, c'est Proudhon qui comment dirais-je, avait écrit Misère de philosophie de la misère. Et Marx a écrit en français, ce qui devait au départ être une petite plaquette, qui a fini par être un livre d'ailleurs très, très stimulant, qui s'appelle non pas Philosophie de la misère, mais Misère de la philosophie, qui était une réplique à Proudhon. Voilà, ça c'était pour la petite note humoristique du jour.
Il faut relire Marx, de toute façon.
Ah oui, ça oui, bien évidemment.
Alors, qu'est-ce que vous... Yacine.
Oui, en fait, moi, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, on a parlé de deux visions que le Coran avait des Juifs. Et finalement, qui peuvent être en apparence très contradictoires. Finalement, comment on peut l'expliquer ? C'est-à-dire que d'un côté, on dit, il y a un verset qui parle de Juifs qui ont été le peuple, qui sont le peuple déchu, qui ont été remplacés. Et de l'autre côté, on entend aussi que les Juifs sont croyants et qui font des bonnes actions. Eh ben, ils auront une place, ils seront honorés. Voilà.
Moi, je pense, ouais, je peux dire une première approche de ce que je pense, moi, de l'aqida islamia. Selon le credo islamique, Dieu ne condamne pas la foi des Juifs. En aucun cas, il dit les Juifs, leur conviction est erronée, à part quelques-uns concernant Uzair, Qal Yahu Uzair ibn Allah. À part ça, on parle en plus d'une communauté qui aurait vécu au Yémen, je ne sais pas quelle région, et qui est totalement isolée par rapport au reste de la communauté juive connue dans le Coran. Ils sont des monothéistes purs. Ils croient en un Dieu unique et indivisible. Il n'y a pas de trinité, il n'y a pas d'idole associée, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Chez les Juifs, on adore un seul Dieu et c'est un sacrilège. Et c'est une hérésie que d'invoquer ou d'implorer autre que Dieu. Donc là-dessus, on est associé. Le point de divergence, c'est le fait que l'islam est venu généraliser ce don de Dieu, cette miséricorde pour tous les êtres humains. Et alors que pour les Juifs, non, le peuple élu reste l'élu, le peuple seul concerné par les lois divines, les révélations bibliques. Et donc, Mohammed qui vient réformer et universaliser le message, comme Dieu dans le Coran le dit, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes, eh bien ça, il n'a pas été accepté par les Juifs. Ils ont dit non, il n'est pas question d'intégrer dans notre privilège, ni les Arabes, ni les Romains, ni les Perses. C'est quelque chose qui est un don de Dieu fait aux Juifs, au peuple d'Israël. Il n'est pas question d'intégrer qui que ce soit. Alors peut-être que maintenant, il y a peut-être autre chose.
Oui, je pense, je suis d'accord, mais il faut peut-être ajouter ce que monsieur l'imam a dit avant, qu'on peut expliquer cette divergence, et j'essaie de le faire dans le livre, historiquement, par le fait, et vous avez dit ça avant, que les deux côtés, positifs et négatifs, sont le reflet des relations qui ont détérioré entre Juifs et Arabes au Médine, autre endroit du nord de l'Arabie, mm-hmm. c'est-à-dire le fait qu'il y avait que les relations entre Mohammed et les Juifs sont détériorées, a fait qu'il a changé quelques-unes de ses idées. Et c'est une réflexion de ce qui passait dans l'histoire.
Alors, il y a énormément de sujets dans votre livre. Quels sont les liens, par exemple, entre l'islam et le judaïsme sur un plan juridique ?
Bon, sur le plan juridique, il y a beaucoup de ressemblances. Si, quand on regarde les lois et les fourrures, les branches de la jurisprudence telle qu'elle est dans le Coran et hors du Coran, on voit beaucoup de ressemblances. Et il n'y a rien à comparer. Par exemple, si on prend le triangle de judaïsme, christianisme et islam, il n'y a pas beaucoup de points communs avec le christianisme, sauf la source. C'est qu'ils ont le même écriture sacrée, mais les deux religions sont développées de manière tout à fait différente. Tandis que l'islam et le judaïsme, ce sont des religions de charia, des religions dans lesquelles on pratique quotidiennement des règles,
des
rituels, et les rituels
sont, on respecte des règles.
Il y a beaucoup de ressemblances. Par exemple, les règles concernant l'alimentation. Mmh. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est pas que c'est tout à fait et parallèle, tout à fait identique, mais il y a quand même, il y a quand même des règles de ce que on est permis de manger, est-ce qui est interdit de manger, et c'est un aspect qui n'existe pas dans le christianisme, qui a aboli ces rôles, de ces restrictions sur la nourriture, tandis que l'islam et le judaïsme, ça existe.
Mais le Coran dit lui-même qu'il a aussi, lui, aboli « لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ».
C'est vrai. Hein,
il a autorisé, par exemple, le fait de rassembler des laitages avec...
Avec de la viande.
De la viande, voilà, c'est interdit chez les Juifs.
Oui.
Eh bien, cette règle-là a été abolie dans le Coran. Le Coran, voilà, il n'y a pas, dans les lois musulmanes, il n'y a pas cette interdiction de manger du lait avec de la viande et plein d'autres choses. Et le fait de cachériser la viande, le fait de la vider de son sang intégralement avec du sel pour qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang. Alors que nous, ça suffit. Seul le sang évacué, ce qu'on appelle le dam al-masfouh, est concerné par le fait qu'il soit impur. Le reste, le reliquat, est, on va dire, toléré. Le reliquat de sang, c'est ce qu'on appelle la différence entre le kasher et le halal. Mais c'est presque pareil. C'est toujours le sang qui doit être évacué du corps de l'animal pour que sa chair se purifie, qui fait que chez nous, les musulmans, mais surtout chez les juifs encore plus, puisque même après être égorgé, il faut encore la poser sur du sel pour que le sel aspire l'intégralité du sang et qu'il n'y ait pas une goutte de sang pour qu'elle devienne kasher. Sans parler des rituels et tout ce qui va avec.
Il faut ajouter aussi quand même que d'après le Coran, et non seulement le Coran, aussi, ça se trouve, cette idée se trouve aussi chez les chrétiens avant l'islam, qu'une partie des règles, des restrictions que les juifs ont sur la nourriture est le résultat d'une punition. Dieu a puni les peuples d'Israël, et pour ça qu'ils ont beaucoup plus de restrictions sur la nourriture.
Alors, pourquoi il les a punis, c'est important.
C'est
justement
une idée le nom
de Sourate
adopté par l'islam.
Oui, tout à fait. Je confirme. On dit que justement pas la sourate al-Baqara qui porte le nom de al-Baqara, la vache. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le résumé de l'histoire? C'est ne posez pas trop de questions, ne vous compliquez pas trop les choses. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le sans vous contraindre, vous imposer des choses encore plus difficiles. Quand Dieu leur dit égorgez une vache, n'importe, prenez une vache.
Ils ont demandé trop de précisions sur la vache.
Voilà, et les hadiths, justement, vont de
ça. Comme elle est longue, l'histoire, on ne va pas.
Non, mais je ne vais pas reprendre l'histoire, je vais simplement ajouter à cela le hadith du prophète qui dit Innama halaka man kana qablakum. Hein, Dieu a anéanti les peuples avant vous. Pour avoir poser trop de questions, alors que les choses sont beaucoup plus simples que voilà. Et à partir du moment où on pose trop de questions, ça veut dire qu'on veut rendre les choses plus compliquées. Voilà, du moins, c'est ça.
Claude Rel, c'est ce que vous avez une question.
La conclusion.
Non, juste une petite remarque pour faire un pont entre vous deux. Quand vous parliez de l'universel du côté donc du Coran, ben, cet universel, il a été évidemment du côté chrétien, et il l'est tellement que universel, ça se dit en grec katholos, et que katholou, un terme qu'on trouve très souvent catholicos chez Aristote, ben, ça veut dire universel, et donc ça a été repris par les catholiques, veut dire au fond universel. Alors c'est vrai qu'une religion, mais ça c'est une question qui se pose comme universelle, peut avoir aussi parfois des tendances un peu hégémoniques.
Oui.
Et voilà, c'est d'où le problème. Vous voyez, c'est toujours très compliqué, parce que quand on se dit, voilà, nous sommes l'universel, ça,
pour une religion... C'est vrai, l'idéologie contemporaine du XXe siècle, ce qu'on appelle les frères musulmans, les Ikhwan et les Muslimin, est une idéologie basée sur l'impérialisme islamique. C'est sur le pana-islamisme dans lequel on veut instaurer sur la terre entière la loi de Dieu. Hein, dans le verset « Wa qatilum hatta takuna kalimatullahi hiya al-ulya » jusqu'à que la parole de Dieu soit... Ça c'est encore... Moi, j'utiliserais de mon côté. Que c'est plus dans le silm, vous dire islam, oui. Mais il y a le mot silm qui veut dire aussi la paix.
Exactement.
Tout Aristote. Claude Reels.
Non, mais Aristote pour contrer les frères musulmans. Ça, alors là, entièrement d'accord.
Alors, sur l'orientation de la prière, est-ce qu'on peut faire rapidement comment expliquer le changement de la Qibla qui a été maintenu un an et demi après l'Hégire pour la Mecque?
C'est pas un an et demi après c'est un an et demi après le début de Tashri' al-Salat, partir du moment où la prière a été légiférée. Et donc c'est quelques mois après l'immigration. C'est pas 18 mois, c'est moins. Mais, parce que si tu veux, la prière a été légiférée quelques mois avant l'immigration. Mais le moment où est-ce que la prière a été légiférée au moment de le retour de l'Isra al-Mi'raj, ce fameux voyage
nocturne,
qui je signale quand même est en rapport fort avec le peuple d'Israël, puisque le prophète aurait donc, selon le Coran, voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem. C'est de là qu'a été légiférée les prières.
Oui, c'était quoi? C'était sur le...
La prière. Le changement d'orientation de la prière.
Alors, donc, le changement, d'après ce qu'on trouve dans le Coran même, et ce changement, au début, ça fait partie de quelques règles par lesquels Mohammed voulait faire l'islam accessible aux juifs. Et une fois qu'il était déçu d'eux, alors cette règle de la Qibla, de la direction de prière a été changée, parce que le Coran lui-même dit de manière
très explicite, c'est que c'est lui le prophète qui voulait qu'on réoriente la Qibla autre part que vers la Jérusalem, parce qu'il était déçu par le peuple d'Israël, c'est vrai.
Oui, donc il change.
Lui-même,
il
avait psychologiquement une réticence.
Ça fait partie de quelques règles qui ont été changées à cause de cette déception du peuple d'Israël qui n'ont pas obéi à Mohammed. Donc c'est pas la peine de
continuer à s'orienter vers la Qibla, vers le Quds justement, puisque il n'avait plus le soutien du peuple d'Israël. Pour justement, parce qu'il il a été désavoué. Donc il a dit, puisque vous ne voulez pas de nous, eh bien nous, si on ne veut pas de vous, on va s'orienter, nous aussi, vers notre propre Qibla. Et Dieu a dit, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons t'orienter vers une Qibla, vers une orientation qui te plaît et dont tu seras satisfait. Et c'est là qu'il a dit, فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ.
Bon, Yacine, on est pris par le temps. Je crois que le grand quiz va faire les frais. C'est triste. Hein.
Il est là.
Voilà, je sais qu'il est là, mais on n'a plus de temps.
C'était passionnant, mais en tout cas, je n'ai pas terminé de profiter de notre.
On a plein d'émissions à faire parce qu'on a vraiment évoqué très peu des sujets
qui sont. C'est pas la dernière fois que tu l'invites, Philippe.
Qui sont abordés dans le sujet.
نعم ولكن أنا وددت أن أتقابل هنا في الإذاعة إن شاء الله مرحبا ويستفيد الجميع يستفيد المستمعين إن شاء الله المستمعات.
Bon, grâce à Claude Reels, on a un nouveau mot à garder aussi, qu'on va garder pour le quiz d'ailleurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve samedi prochain.
Retrouvez Speak Uni tous les dimanches de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.